Chers auditeurs, bonjour. En ce cinquième dimanche de carême, nous sommes à Saint-Germain-l'Auxerrois, dans le premier arrondissement de Paris. La présidence et la prédication de notre messe seront assurées par le père Henri de Villefranche, chapelain à Notre-Dame de Paris. À l'orgue de chœur, nous entendrons Yves Castagnet, au grand orgue Vincent Dubois. Les chants seront animés par le chœur d'enfants de la maîtrise de Notre-Dame de Paris, dirigé par Émilie Fleury.
Et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur est avec nous, mais c'est pour nous conduire au porche de la Semaine Sainte qui approche. Nous entrons dans le temps de la Passion et nous sommes invités à rien de moins qu'à entrer dans les sentiments de Jésus lui-même, envoyé par le Père pour apporter la paix et la lumière et qui rencontre l'opposition jusqu'à la crucifixion. C'est un drame qui continue d'ailleurs de se dérouler dans l'histoire du monde et jusqu'à la fin. Comment entrer dans ce renversement de situation que Dieu veut établir? Commençons par demander pardon pour nos péchés et suivons Jésus là où il nous conduit. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance, et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. » Alors, du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu.
Ce passage de l'Évangile que nous venons d'entendre ressemble un peu à une composition de plusieurs passages qui ont été rassemblés pour nous faire vivre un moment important de la vie de Jésus. Je pense qu'on peut faire l'hypothèse qu'à la clé de chacune de ces paroles, il y a la scène bien connue de l'agonie au Jardin des Oliviers à Gethsémani, que l'Évangile de Jean ne raconte pas au moment où ça se passe, mais qu'il anticipe en ce chapitre 12e. Et c'est bien pour nous, parce que l'épisode se passe dans la nuit du jeudi au vendredi saint, et ça se passe entre 2h et 4h du matin. Et avouons-le, même si on tâche d'être vigilant pendant la semaine sainte, il y a quand même des moments où on dort. Et donc, on n'est pas en phase avec l'horloge de la passion à ce moment-là. Mais il est bon précisément d'entrer dans la finesse de ce que représente cette scène. D'ailleurs, la finale, comme pendant tout le temps du carême, si on s'est bien entraîné, nous invite à ce discernement. Quand j'aurai été élevé, est-ce que c'est l'élévation sur la croix? Est-ce que c'est l'élévation de l'ascension? Est-ce que c'est la gloire tout de suite? Mais la gloire est-elle dans la lumière ou est-elle aussi dans l'épreuve? Il y a certainement les deux chemins qui nous sont proposés. En tout cas, nous avons des acteurs un peu particuliers qui nous sont présentés. Le groupe des disciples, oui, un peu pénible à observer parce qu'il ne comprend pas grand-chose. Oui. Sur 12, à Gethsémani, il en reste 3 et ils s'endorment, alors que le Seigneur veille et prie. Le théologien connu, von Balthasar, qu'on a souvent cité pendant les conférences de carême, commente avec une certaine dureté en disant que ces 3 disciples représentent une église qui roupille. Son avertissement est peu entendu car cette scène est un peu énigmatique. Les apôtres donnent de fait le sentiment, mais combien de parmi nous et moi-même, donnent le sentiment d'avoir renoncé à décrypter les signes de l'évangile. Et oui, Dieu reste souvent loin, et le monde contemporain, à chaque génération, est toujours difficile à apprivoiser. Jésus met en garde contre le danger de rougir de l'évangile. Pierre succombera, Paul s'en fait l'écho en disant modestement « Je ne rougis pas de l'évangile ». Pourquoi une litote à ce moment-là? La seule parade, mes amis, est de trouver des raisons de fierté, d'enthousiasme à suivre Jésus aussi bien dans l'épreuve que dans la gloire. Et tous les témoins de la littérature française du XXe siècle retenus pour les conférences, je le répète, nous ont conduits sur ce chemin surprenant, difficile, mais combien fructueux. Il y a bien, de manière là aussi un peu mystérieuse, la présence de ces Grecs qui veulent voir Jésus. Mais Jésus dans quel état? Jésus dans la gloire? Jésus sur la croix? On ne sait pas ce qu'ils deviennent dans la suite de l'évangile, mais on pressent qu'ils représentent tous ceux qui, de manière inattendue, sont touchés par la grâce de l'évangile. Et je pense en particulier aux catéchumènes qui vivent souvent des situations assez improbables. Et c'est là qu'ils font l'expérience de la rencontre avec la beauté, la vitalité de l'évangile. Et ils cherchent à rejoindre des témoins, un groupe de chrétiens, paroissial, un autre mouvement. Voilà, ceux-là seront-ils disponibles pour les accueillir? Oui, il y a ceux qui s'éveillent et qui réveillent ceux qui souvent sont endormis, assoupis. Et c'est le signe que le Seigneur lui-même tient bon, il veille sur ses enfants. L'urgence est de faire signe à ceux qui attendent. Un peu d'audace fait du bien dans des temps souvent incertains. L'autre situation que nous sommes invités à bien regarder, à nous en approcher, comme dit saint Paul, ayez les sentiments que le Christ a éprouvés. C'est la position de Jésus vis-à-vis de ses frères, et vis-à-vis de Dieu lui-même. La prière de Jésus, là encore, présente bien des ambivalences et il faut choisir le bon chemin ou le meilleur chemin. On comprend souvent la prière de Jésus à Gethsémani comme un peu pathétique et déçu avec la citation du psaume « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» On a l'impression que c'est raté. Et j'ai entendu un merveilleux poète juif, Claude Vigée, qui est mort récemment, très âgé, et qui propose d'entendre, non pas « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» mais « En vue de quoi ? Dans quel but m'as-tu abandonné à cette situation ?» C'est-à-dire, comment peut-on traiter quelqu'un de manière aussi violente et injuste ? L'innocent traité comme le pire des malfaiteurs. Est-ce que c'est absurde ou est-ce qu'il y a un but ? Eh bien, je crois que cette version, qui s'inspire d'ailleurs d'une rétroversion en hébreu des évangiles, qui peut ouvrir bien des possibilités, trouve aussi des fondements dans les deux lectures que nous avons aujourd'hui. Par exemple, la prière « Sauve-moi de la mort ». Et une lecture un peu rapide, et qui est un réflexe de chacun d'entre nous devant la mort, parce que ça fait peur, comprend que Jésus demanderait d'éviter de mourir. C'est quand même un peu puéril, même si ça se comprend. Je crois qu'il vaut mieux comprendre « Sauve-moi à partir de la mort », c'est-à-dire alors même que je serai mort, à l'intérieur de la mort, ce qui suppose un au-delà de la mort et qui caractérise l'espérance juive transmise par les prophètes. Et l'Épître aux Hébreux, la deuxième lecture de ce dimanche, confirme Jésus prie avec larmes et supplications. Et comme dans la version de Saint-Luc, il va suer le sang dans son angoisse en priant Dieu, Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire, être sauvé de la mort? Est-ce que c'est simplement échapper momentanément à la mort? Non, c'est traverser la mort pour recevoir la grâce d'une vie nouvelle, dans une condition ressuscitée. C'est pas du tout la même chose. Et il faut sortir de la puérilité, il faut sortir de l'angoisse sensitive, immédiate, qui est légitime, mais qui n'est pas le seul registre, heureusement, de notre existence. La dignité, c'est de passer à un sens second, un sens plus profond. Et c'est Jésus qui nous conduit à cela. Et c'est bien le même Jésus qui, alors, et c'est important pour nous, brise le drame de la solitude, tant avec ses frères qu'avec Dieu. Dans cette scène de Gethsémani, Jésus ne veut pas être seul. Il revient sans cesse vers ses frères qui s'endorment, lui qui prie. Et il vit une communion intense avec Dieu. Au fond, c'est sa mission de médiateur de l'alliance nouvelle proclamée par le prophète Jérémie, bien meilleure que la première, atteignant son but et qui nous permet, qui nous apprend à affronter dignement notre condition humiliée par la perspective instinctive de la mort, et en même temps notre condition magnifiée par l'espérance révélée par l'alliance nouvelle et éternelle dont nous célébrons le sacrement dans la célébration de la messe. Cette alliance se vit dans la fraternité. Tous me connaîtront, tous peuvent l'entendre. Et cet idéal chrétien et christique explique la prière de Jésus pendant les évangiles de la nuit qui suit la scène. La coupe que Jésus demande qu'elle passe n'est pas la coupe de la mort, c'est la coupe du jugement. Et Jésus demande, j'allais dire tout simplement, que Dieu fasse passer d'un jugement de colère à un jugement de miséricorde. Et c'est cela que fait Dieu. Ce qui nous fait peur doit devenir ce qui nous enthousiasme. Ce qui nous paraît la fin va se révéler être un chemin. Et c'est le fondement de l'espérance de cette prière pleine d'esprit filial et pleine d'esprit fraternel que nous sommes invités à entendre du Christ et à vivre de notre part. Cette fraternité, n'oublions pas, elle est proprement chrétienne, mais elle est devenue la devise de la République française. Que devient cette fraternité devant la mort du prochain, la mort d'un frère, ce qui aide à mourir? Et tant de gens prennent du temps pour accompagner les malades et les mourants, voyez, font que ce dont on a besoin, c'est de l'affection, de la considération, de l'attention qui est celle des soignants, des familles, des croyants qui participent activement à l'accompagnement des malades. Je ne peux pas donner la mort à un frère. Un malade en mourant cherche d'abord à être aimé et il faut savoir reconnaître cet appel à l'amour, cet appel à la présence, même s'il emprunte dans la douleur au registre de la mort. Que veut dire « je veux mourir » Ça peut vouloir dire « je veux être aimé ». L'espérance de recevoir cette vie nouvelle est inscrite dans notre inconscient, comme dans la voix des prophètes. Mais elle se nourrit pas simplement au moment de la mort, elle se nourrit dans la vie, bien entendu, qui la précède. Il faut s'exercer dans des exercices spirituels et existentiels, à l'amitié, au sens de la famille, à la solidarité, la miséricorde, la prière, le pardon. C'est ce qui fait que, déjà en bonne relation maintenant avec notre prochain, nous pourrons être en bonne relation avec lui au moment de la mort pour passer à la vie éternelle. Il ne s'agit pas simplement de prolonger un peu sa vie, mais de la recevoir de quelqu'un d'autre et de Dieu d'abord, comme Jésus nous l'enseigne. Jésus dit, et nous pouvons dire avec lui, « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne, j'ai le pouvoir de la donner et de la recevoir. » On disait avant de la reprendre, grave erreur. Nous recevons toujours la vie. Il faut apprendre, mes amis, à recevoir la vie et à donner la vie. Et c'est l'amour, l'amour en particulier d'un autre, toujours nouveau, qui nous apprendra à traverser la vie de manière juste et bonne pour traverser la mort et arriver à la vie par lui, avec lui et en lui. Amen.
L'homélie que nous avons entendue nous a été donnée par le père Henri de Villefranche. Si vous souhaitez en recevoir le texte, vous pouvez nous le demander à l'adresse suivante, homélie radiodiffusée, 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. Vous pouvez aussi la réécouter ainsi que l'intégralité de cette messe sur le site internet de France Culture, radiofrance.fr.
Hey.
Prions tous maintenant fraternellement Dieu notre Père, comme Jésus l'a prié.
Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Que cette parole s'inscrive dans le cœur de chaque baptisé et qu'elle nous aide à marcher ensemble vers Pâques. Prions le Seigneur. Prions pour les catéchumènes en chemin vers le baptême. Prions aussi pour leur accompagnateur et tous les fidèles soucieux de témoigner des grâces déjà reçues. Prions le Seigneur. Que Dieu donne à son Église et au diocèse de Paris en particulier la joie de voir naître et grandir de nouvelles vocations de prêtres. Prions le Seigneur.
Exauce nos prières, Dieu très bon, comme tu as exaucé la prière de ton Fils bien-aimé en le sauvant de la mort par la résurrection éternelle, lui qui règne pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Dominus vobiscum. Sum corda gratias agamus Domino Deo nostrum Deus.
et justum est, et tub et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine sancte pater omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum, quia fidelibus tuis dignanter concedis, quot annis paschalia sacramenta, in gaudio purificata mentibus expectare, et pietatis officia et opera, caritatis propensius exequentes, frequentatione mysteriorum quibus renati sunt, ad gratiae filiorum plenitudinem perducantur, et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omnim militia celestis exercitus, in num gloriae tue canimus, sine fine dicentes. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Mysterium fidei.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
Sur nous tous enfin rassemblés à Saint-Germain-l'Auxerrois et ceux qui nous écoutent par la radio, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo patrete pater noster omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.
Amen.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons alors libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous t'y attendons maintenant que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour le siècle. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Bienheureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Oui,
Rendons grâce au Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, car tu nous accordes d'être comptés parmi les membres du Christ. Nous te demandons encore qu'en communiant à son corps et à son sang, nous puissions vivre dans la lumière et dans la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Les horaires de la Semaine Sainte sont sur toutes les feuilles paroissiales. Saint Joseph sera célébré mardi prochain, le 19 mars. Et les conférences de carême continuent cet après-midi avec Huysmans, fait par Gaël Prigent. Et la semaine prochaine, dernière conférence, Marie-Noël, à 16h30, à Saint-Germain-l'Auxerrois. Demandez à Dieu sa bénédiction.
Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Ite missa est
Deo gratias.
Ainsi va s'achever dans quelques instants cette messe du cinquième dimanche de carême, célébrée à Saint-Germain-l'Auxerrois. Nous remercions le père Henri de Villefranche, qui a présidé et prêché, Émilie Fleury et le chœur d'enfants de la maîtrise de Notre-Dame de Paris pour les chants, Vincent Dubois au grand orgue, Yves Castagnet à l'orgue de chœur, et pour la prise de son, Marc Garvenès et Guillaume Leblège. Dimanche prochain, 24 mars, dimanche des Rameaux, nous serons à la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse dans le 7e arrondissement de Paris. La présidence et la prédication de notre messe seront assurées par le père Gilles Drouin. Cet après-midi, à 16h30, nous entendrons la 5e conférence de carême de Notre-Dame de Paris du cycle « La mystérieuse musique des sacrements, littérature et spiritualité ». Conférence consacrée à Joris Karl Huysmans, l'écriture comme allalie mystique par Gaël Prigent. Je rappelle que vous pouvez nous écrire pour nous demander le texte de l'homélie d'aujourd'hui à l'adresse suivante, homélie radiodiffusée 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. Vous pouvez aussi réécouter l'intégralité de cette messe ou la télécharger sur le site internet de France Culture, radiofrance.fr. Et dans un instant, nous retrouvons l'esprit public avec Hervé Gardette.